Alors, je propose de continuer notre série de prédications sur la deuxième épître aux Corinthiens. La dernière fois, sur cette épître, on avait vu un seul verset du chapitre 5, qui était le verset 17, c'était lors du baptême de Mélodie. Ce verset 17 qui disait « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur ce chapitre 5 et qu'on essaye de le voir d'une manière plus globale pour voir ce que Dieu nous enseigne ici. Juste avant de commencer la lecture, un bref rappel de ce qui a été dit au chapitre 4. Dans le chapitre 4, l'apôtre Paul expliquait pourquoi il ne perdait pas courage. Il était sans arrêt confronté à des défis, à des embûches, à des persécutions, et il a expliqué pour quelles raisons il ne perdait pas courage. Et il disait que bon, il y avait un certain nombre de difficultés, la persécution, et le chapitre 4 terminait avec cette évocation de son corps qui décline, de la maladie, de la fatigue, de l'usure, et tout ce qui lui rappelle qu'un jour son passage sur terre va prendre fin. Et c'est là que commence le chapitre 5 que nous allons lire en entier ce matin. Il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons une occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'arrête là la lecture pour ce matin. Il y a un thème qui m'a frappé en lisant ce chapitre, un thème que l'on retrouve tout au long du chapitre. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Alors on peut voir ce chapitre sous différents angles, mais il y a un thème en particulier. Ce thème, c'est l'évangélisation. Le sujet qui fascine et qui terrifie les chrétiens. L'évangélisation. Tout ce chapitre nous parle d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à ceux qui meurent dans leur péché parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et si ce sujet fascine les chrétiens, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un enjeu, un très grand enjeu. Quand on parle d'évangélisation, on parle d'apporter Jésus-Christ, la vie éternelle, à des millions d'hommes et de femmes qui, sans lui, vont passer l'éternité en enfer. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens en général ont bien compris et qui attire leur cœur. Mais il y a aussi une peur, pour pas dire des fois une terreur, une répulsion quand il s'agit d'évangélisation, parce que ça suppose un effort, ça suppose de passer par-dessus sa timidité, ça suppose de vaincre des peurs, d'aller au-devant de l'autre, parfois de passer pour un fou, parfois d'être ridiculisé, parfois de souffrir physiquement dans son corps. Et il y a tout un tas de raisons qui nous poussent à être craintifs quand il s'agit de parler de Jésus. Donc je voudrais ce matin essayer de suivre la pensée que le Saint-Esprit a inspirée à l'apôtre Paul au long de ce chapitre pour en dégager quelques principes en ce qui concerne l'évangélisation. On va voir pourquoi l'apôtre Paul annonçait l'évangile, pourquoi est-ce qu'il y consacrait toute sa vie. On va voir d'abord qu'il plaçait son regard dans la bonne direction, il avait choisi de bonnes priorités. Et puis il y a aussi une question de cœur, avoir de bonnes motivations dans le cœur. Et enfin, connaître la volonté de Dieu. Donc voilà ces trois points ce matin. D'abord, un regard dans la bonne direction et de bonnes priorités. Je viens de dire que l'apôtre Paul a consacré sa vie à annoncer l'évangile. C'est quelque chose de grandiose. Quand on lit les actes et les épîtres qui ont été écrits par Paul, on se rend compte qu'il est parti, il a passé le plus clair de son temps à voyager de pays en pays, de région en région, pour parler de Jésus là où on ne le connaissait pas encore, là où on n'avait pas encore entendu parler de lui. Quand il y avait des gens qui l'écoutaient, il s'installait pour un moment, il enseignait, il formait des disciples, et quand il y avait des disciples suffisamment formés pour fonder une église, eh bien, il partait ailleurs, il annonçait l'évangile ailleurs, et le cycle se recommençait. Et tout au long de ce parcours, on est toujours surpris et effrayé même quand on voit toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face. La semaine dernière, Eric nous a lu quelques-unes de ces difficultés. On voit qu'il a été battu, emprisonné, persécuté, et il y a des dangers qui ne paraissent pas non plus, mais c'est des dangers dus au voyage. Il n'y avait pas des belles routes goudronnées, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas l'avion, il y avait des routes qui étaient infestées de brigands, et même les voies maritimes n'étaient pas aussi sûres que ce qu'elles sont maintenant. Donc il a aussi fait face à la maladie, il y a son corps qui s'est affaibli, et pourtant, il commence ce chapitre en disant que Paul n'a pas perdu courage. Malgré tout ça, il n'a pas perdu courage. Il y a des choses qui lui ont permis de garder la motivation pour parler de Jésus à des gens qui souvent le persécutaient. Et l'une des choses qui lui a permis de garder courage, c'est de garder les yeux dans la bonne direction, d'avoir une bonne priorité. Regardez au verset 1, il est écrit « Nous savons en effet » que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà sa priorité, voilà où se focalisent ses regards. Il sait qu'il vit des choses difficiles, mais il choisit de rester dans ces circonstances difficiles. Il accepte de souffrir parce qu'il sait qu'après, il va y avoir le repos. Après, il va y avoir l'éternité, il va y avoir la félicité éternel. Il sait qu'il n'est là que pour un peu de temps. Un peu de temps. La tente dont il parle, c'est son corps. Ce corps qui est temporaire. Alors comme il sait qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'éternité devant lui pour parler de Jésus, eh bien il saisit l'occasion et il s'y donne entièrement. C'est pour ça qu'il accepte de renoncer à son confort maintenant, parce qu'il sait qu'après le confort il l'aura. C'est pour ça qu'il accepte de ne pas prendre soin de lui, mais qu'il accepte de tout quitter. Il a tout quitté. Simplement parce qu'il sait que Dieu lui réserve dans le ciel une demeure éternelle. Et si vous avez déjà parlé de Jésus autour de vous, je sais que c'est le cas d'une bonne partie d'entre nous, vous savez que ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui coûte. On doit passer la barrière de la timidité, nos réserves naturelles. On sait que ça va nous coûter quelque chose, un effort, un sacrifice. Mais il y a des apôtres et des millions de chrétiens après eux qui ont accepté ce sacrifice parce qu'ils savaient qu'après, il y aurait le repos. Et c'est aussi pour nous, c'est là qu'il faut fixer nos regards. Oui, pour l'instant, ça suppose un sacrifice, ça suppose de sortir de ma zone de confort. Mais après, je serai dans le repos. Il y a un verset qui m'est venu en tête en réfléchissant à cela, c'est Romains chapitre 8, verset 18, où il est dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On a parfois du mal à imaginer comment sera la vie au ciel. Alors on peut se faire une petite idée, la Bible nous donne quelques pistes, quelques détails, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui nous échappe. Mais la Bible nous dit que Dieu prépare quelque chose de tellement glorieux que ce qu'on peut souffrir ici-bas nous paraîtra être rien. Tout ce qu'on peut vivre de douloureux, d'injuste, d'incompréhensible ne nous reviendra même pas à la mémoire parce que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Ça dépasse notre entendement. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on peut accepter par la foi de souffrir maintenant en sachant que Dieu pourra effacer toute souffrance, toute larme de nos yeux. Et il y a aussi autre chose, quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que je trouve plus profond. L'apôtre Paul parle de ce moment où il va entrer dans le ciel, et au verset 9 et 10, il dit « C'est pour cela aussi, parce qu'il va rentrer dans le ciel un jour, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Quand l'apôtre Paul pense à l'éternité, à ce moment où il va se retrouver face au Seigneur, il se rappelle qu'il va devoir rendre des comptes à Dieu. Il va devoir rendre compte de la façon dont il a utilisé son temps, la façon dont il a utilisé sa bouche, la façon dont il a utilisé tout ce que Dieu lui aura confié. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, ici, sont tous les chrétiens. Nous n'aurons pas affaire au jugement du grand trône blanc, parce que celui qui croit en Christ n'est pas jugé. Mais là, il est question d'un tribunal de Christ, où chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Les chrétiens, tous, nous nous retrouverons face à notre Sauveur, et nous aurons à rendre compte de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. Parce qu'il est écrit que celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Je voudrais m'arrêter un petit instant là-dessus. Parce que c'est important, c'est profond. Dieu nous dit qu'un jour, nous nous retrouverons face à celui qui a donné sa vie pour nous et que nous aurons à lui rendre compte de ce que nous, nous avons fait pour lui. Pour l'apôtre Paul, c'était une motivation. C'était un aiguillon. Vous savez, les agriculteurs, ils se servaient de ces aiguillons pour faire avancer les bœufs, voilà, qui travaillaient dans les champs. Et pour l'apôtre Paul, savoir qu'un jour il devrait rendre compte, expliquer pourquoi il a fait tel ou tel choix, pourquoi il n'a pas fait tel ou tel autre, rendre compte de ses paroles, de la façon dont il a annoncé l'évangile, c'était un aiguillon qu'il poussait à avancer, à continuer, à ne pas perdre courage et à rester motivé. Ça devrait aussi être notre cas. Tout faire pour être agréable à Dieu. Tout faire pour être agréable à Dieu maintenant. L'apôtre Paul ne craint pas de perdre son salut. Il ne craint pas de ne pas en avoir fait assez pour arriver au ciel. Il sait que quand il sera au ciel, ça ne sera pas grâce à ce qu'il a fait lui, mais grâce à ce que Christ a fait pour lui. Parce qu'il y a un seul moyen d'arriver au ciel, c'est que Christ nous y emmène. D'être purifié par Jésus-Christ. Mais il sait que le Seigneur a tellement fait pour lui. Il ne peut pas rester sans rien faire. Il s'efforce de lui être agréable. Il craint de déplaire à Dieu, de devoir rendre compte d'une mauvaise gestion de son temps. Il craint que Dieu lui reproche que des hommes ou des femmes soient allés en enfer à cause de sa négligence. Vous vous rendez compte, on peut être responsable du salut ou de la damnation de ceux qui nous entourent. Regardez le verset 11. Il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Il craint de se retrouver devant Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à convaincre les hommes. Ce n'est pas ça qui va le faire entrer au ciel. Mais un jour, devra dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Et c'est ça aussi la crainte de Dieu. Agir en fonction du jour où on devra lui rendre compte. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à annoncer l'évangile et à convaincre les hommes. Alors est-ce que la crainte de Dieu vous pousse à parler de Jésus autour de vous ? Est-ce qu'il vous arrive de penser à ce jour où vous serez devant votre Sauveur, devant celui qui a donné sa vie pour vous, pour moi, vous rappelant que vous aurez des comptes à rendre. Il a souffert pour moi, il a tout donné pour moi. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il y a des gens qui pensent que parce que Christ a expié leurs péchés, ils peuvent vivre comme bon leur semble. Ils peuvent vivre à la recherche de leur plaisir, leur distraction, du moment que ça ne nuit à personne. Ils peuvent vivre pour leur travail, pour leur promotion sociale, pour leur porte-monnaie, pour leurs loisirs, du moment que ça ne fait de mal à personne. C'est vrai que c'est une bonne motivation que de ne vouloir faire de mal à personne. Un chrétien ne doit faire de mal à personne. Mais attention, parce que cette pensée nous conduit à oublier qu'un jour nous aurons des comptes à rendre de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. Et si nous avons passé notre vie dans l'insouciance de l'éternité, même sans faire le mal, nous aurons à rendre compte d'une vie qui aura été désespérément vide, vide du fruit que Dieu veut y trouver. Je devrais avoir une crainte dans mon cœur de me retrouver face à mon Sauveur et de ne pas avoir accompli convenablement la mission qu'il m'a confiée. Je voudrais vous faire lire un passage dans le livre des Proverbes, chapitre 24. Alors regardez un marque-page ou votre doigt dans 2 Corinthiens 5, mais regardez Proverbe 24. C'est un passage que je trouve saisissant. Versets 11 et 12. Il est écrit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, ne savions pas !» Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Il y a des millions d'âmes qui vont finir dans la mort éternelle, qui iront en enfer parce qu'ils n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Vous savez, on dit qu'on est dans un pays christianisé. C'est pas vrai. La majeure partie des habitants de notre pays ne savent pas que Christ est le seul chemin pour venir à Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et s'ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas aller auprès du Père. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. En tout cas, à partir de maintenant, après cette prédication, personne ici pourra dire « Ah, je ne savais pas ». On sait le sort qui attend ceux qui vivent et qui meurent sans Christ. Et c'est cette pensée-là qui a saisi des missionnaires, qui les a poussés à aller évangéliser des coins accessibles ou inaccessibles, les coins les plus reculés de la planète. Est-ce que vous savez combien de personnes meurent en France chaque année ? Environ 600 000. Il y a 1% de chrétiens nés de nouveau en France. Donc 1% de ces 600 000 qui, à peu près, iront au ciel. Le reste, non. Voilà une des bonnes motivations qui remplissait le cœur de l'apôtre Paul pour lui rappeler son devoir. Parce que c'est notre devoir d'annoncer l'évangile. Mais il y a, dans le passage de 2 Corinthiens 5, il y a une deuxième motivation. Et c'est vrai, la première, elle joue sur la corde un peu de la culpabilité. Elle joue sur la corde du devoir. Notre responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a cette facette-là et il ne faut pas la négliger. Mais il y en a une deuxième motivation qui est plus douce. Et je crois que si la première n'a pas désarmé les objections qu'on pourrait avoir à aller évangéliser, la deuxième motivation, elle, devrait désarmer tous nos « oui, mais » il est écrit que l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ça, c'est ce qui doit remplir le cœur du disciple de Jésus, l'amour. Il n'est pas question de l'amour que nous avons pour Christ, mais de son amour à lui, de l'amour dont il nous a aimés et qui se trouve dans nos cœurs. C'est cet amour que Dieu a versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est à cause de cet amour que Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et cet amour nous presse. C'est-à-dire qu'il nous serre le cœur, il nous étreint, il nous pousse. Il nous pousse. Si on n'est pas poussé vers notre prochain, quelle est notre compréhension de l'amour ? Quelle est notre compréhension de l'amour de Dieu ? Christ est venu par amour pour nous arracher à l'enfer. Tout à l'heure, Alain a lu Romains 5. L'amour, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour aller chercher des pécheurs. Christ est descendu du ciel de la gloire de son trône pour venir dans un lieu de misère pour nous sauver. Quelle objection est-ce que nous pouvons trouver à ça pour ne pas nous descendre de notre canapé, sortir de chez nous et aller parler de Jésus. Si Christ est descendu pour sauver ses ennemis, ça veut dire que je dois aussi sortir pour mes ennemis. Quelle excuse pour ne pas obéir. Vous savez, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon de zèle. Parce que moi aussi, j'aimerais bien rester, me reposer. J'aime bien profiter de mon confort. J'aime bien aussi qu'on dise de Baptiste, oh là là, qu'est-ce qu'il est zélé, qu'est-ce qu'il aime Dieu celui-là. Moi aussi, je lutte avec ma paresse. Je lutte avec la négligence, je lutte avec l'hypocrisie. Mais si je m'examine moi-même, je dois reconnaître que j'ai une certaine marge de progrès. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, cela signifie donc que tous sont morts. Tous sont morts. S'ils n'ont pas Christ, ils sont morts. Est-ce que je peux dire que je demeure dans l'amour de Christ si je reste indifférent à mon prochain qui meurt, qui va en enfer? Est-ce que je suis comme le pharisien et le lévite qui sont passés à côté de l'homme mourant dans la parabole du bon samaritain? Remarquez, ce sont les religieux qui sont passés à côté de cet homme mourant et qui ne lui ont pas porté secours. Des hommes qui connaissaient, qui faisaient profession de servir Dieu et qui le servaient dans une certaine manière, dans une certaine mesure. Mais celui qui aime vraiment, il s'est arrêté. Il est descendu de sa monture. Il a pansé ses plaies, il a versé dessus de l'huile, du vin. Ensuite, il l'a pris avec lui. Il lui a laissé sa place sur la monture, il lui a payé son séjour à l'hôpital et ses frais médicaux. Tout ça pour sauver la vie à un inconnu. Je sais, je suis même persuadé que tout ça sont des choses auxquelles beaucoup d'entre nous ont déjà pensé. Mais sans forcément savoir quoi faire, sans savoir comment passer de la prédication qui est entendue à la pratique. Il y a quelques années, Nicolas avait fait une étude biblique sur la parabole du semeur. Il avait relevé une chose qui m'a marqué, c'est que ce semeur est sorti pour semer. Il a dû sortir, il n'est pas resté chez lui. Pour semer, pour que quelque chose pousse, il a dû sortir. Il a dû quitter la quiétude de son logement et affronter les conditions climatiques, peut-être le froid, la chaleur, je ne sais pas, mais pour aller semer. Il n'est pas resté chez lui à faire des plans et à méditer. C'est une bonne chose de réfléchir avant d'agir. Mais il a dû sortir et il a semé. Le reste, c'est Dieu qui l'a fait, parce que c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas notre responsabilité à nous. Mais en tant que semeur, il a fait son travail et il a laissé à Dieu le soin de faire le sien. Qu'on a vu les regards dirigés vers la bonne direction, deux bonnes motivations, l'amour et rendre des comptes. Et le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Cette volonté, on la lit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans notre texte de 2 Corinthiens 5 ce matin, on retrouve cet appel qui est formulé de plusieurs manières. Au verset 15, il est écrit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Plus moi, mais lui. Plus mes projets, mais les siens. Plus ma volonté, mais la sienne. Parce qu'il est mort et ressuscité pour ça. Il est mort pour tous, afin que je ne vive plus pour moi-même, mais que je vive pour lui. C'est vrai que Dieu va en appeler certains à un service particulier, parfois plein temps. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tous les chrétiens, sans aucune exception, sont appelés à servir et à annoncer Jésus. Et au verset 20, c'est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Et ça, c'est la mission qui nous est confiée, c'est d'être ambassadeurs de Jésus-Christ. Annoncer qu'il est venu faire la paix entre Dieu et les hommes. Si vous êtes chrétien, vous êtes ambassadeur. Ça veut dire que votre maison est une ambassade. Une ambassade du royaume des cieux. Et dans une ambassade, ce sont les lois du royaume que l'on représente, ou de l'État qu'on représente, qui s'appliquent. C'est un endroit aussi où les citoyens de cette ambassade, de ce royaume, de cet État, sont reçus et protégés, et où les intérêts du roi et de son royaume sont mis en avant. Et je voudrais terminer avec un dernier passage qui ne se trouve pas dans 2 Corinthiens 5, mais dans Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Et je voudrais, et j'emploie l'expression volontairement, je voudrais nous confronter à ce passage de Matthieu 21, versets 28 à 31. Le Seigneur Jésus dit « Que vous ensemble ? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux, demande Jésus, a fait la volonté du Père ?» Le premier. Lequel des deux fils nous représente ? Est-ce que nous sommes comme celui qui a rechigné au départ, mais qui finalement y est allé parce qu'il s'est repenti? Ou est-ce qu'on est comme le deuxième, plein de bonne volonté, de belles paroles, mais désobéissant dans les faits? Je nous invite à nous examiner quelques instants dans la prière par rapport à ce qui est écrit.